Pêche Souplée?
Oui.
Non, c'est rewind, ça. Pêche Souplée.
Excuse-moi.
Non, plie, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là.
Oui, je le sais.
Non, mal fait. Tasse-toi d'être là.
Non, c'est correct.
La ligne des mêlées.
Je comprends pas ce que tu veux.
Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.
Salut tout le monde, bienvenue à la ligne des mêlées. Si bon, je perds la voix. Et bon, ben, ça part mal. mais c'est ça la ligne des mêlées. On est là, encore une fois, lundi, le 23 septembre. On est à la semaine 3 de la NFL. On a bien passé la mi-saison dans la Ligue canadienne de football. On approche, même je pense qu'on vient de faire la mi-saison dans le RSEQ ici au Québec. Donc, ben écoute, grosse fin de semaine de football. Grosse fin de semaine de football qui a commencé évidemment dès jeudi avec la grosse victoire des Jets contre les Pats. S'il y en a qui ne le savent pas encore, les Jets, c'est un peu mon équipe de l'enfance. Donc, bien content d'avoir pu vivre ça jeudi où pour la première fois depuis 1999, les Jets de New York...
C'est ton équipe, les Jets?
Battent les Pats par plus que 6 points. Ah, 1999. Équipe, tu vois que je suis un gars qui toffe en relation. Moi. Panique. C'est cool.
Je sais pas sur quoi tu veux.
Il y avait ce bouton-là dans le studio. Bouton de panique. Mais il n'y a pas de panique. Pas de panique ici. Les écouteurs, je les avais pas. La momoude, je ne l'avais pas. On est là pareil.
Au niveau de l'Angleterre, par exemple, là, ça commence à... Ah non, c'était tough à regarder.
Ils sont exactement là où on a besoin qu'ils soient parce que... Là, je sais plus comment qu'il faut que je parle de ça, là, ici. j'allais dire que j'ai fait un pari sportif que je n'incite personne à faire. J'ai fait un pari sportif pour le plaisir. Puis j'incite personne à le faire. Ouais, c'est ça qu'on m'a dit de dire.
Non, c'est ça. Donc, personne n'est incité à le faire.
Non, exact. Et j'avais pris les Patriots au début de l'année pour avoir moins de 4 victoires. Donc, la première semaine m'a stressé un peu. Mais là, on retourne tranquillement dans nos bottines. Mais là, faut pas dire que les Pats sont pourris parce que ça voudrait dire que les Jets sont pas si bons que ça. T'sais.
Ben, je pense que c'est un peu des deux.
Mais... Attention à ce que tu dis, toi, Chris. Attends à ce que tu dis.
Pardon, ça, c'est dans l'autre studio.
Non,
ça.
Excusez-moi, dans l'autre studio. Faut faire attention ici, faut faire attention. On est dans les studios de BP1 Sport. On est en direct à la radio. Il est présentement 6h02. On approche du Monday Night, le double Monday Night Football ce soir de la NFL. On a eu une grosse fin de semaine de football, non seulement la victoire des Alouettes, beaucoup d'NCAA quand même qui vraiment est... C'est le fun à regarder pour vrai cette année. Là, c'est vraiment excitant de regarder le football américain universitaire, notamment grosse victoire de Colorado contre Baylor samedi soir qui m'a gardé tard dans mon lit où j'étais là. Je suis vraiment en train de regarder Colorado contre Baylor. Qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais?
Puis à la dernière seconde, hein?
Hey, deux fois la dernière seconde. Shedeur Sanders, le fils de Deion Sanders, sort de la pochette, essaye de lancer ça dans la zone début. Ça ne fonctionne pas, mais presque.
Ouais.
Mais presque. Là, vraiment, le joueur l'avait dans les mains. Oh non, mon Dieu.
Oh,
Baylor décide d'appeler un temps mort. Et Colorado refait la même chose et réussissent à faire cette passe-là qui est à peu près de 50 verges. Shedeur Sanders est droitier, court à gauche, se contorsionne, lance la balle. Écoute, puis tu sais, on n'a même pas pris le temps de se présenter. C'est Arnaud Gascon-Nadon qui est en studio à tous les lundis. Et à la production et à la co-animation, on a Pepper, connu sous le nom de Arnaud Pepperall Gutierrez.
Gutierrez.
Donc, bien content de te retrouver, mon Pepper. Yes. Donc, on jase de football, mais tu savais, en plus, pour les gens qui ne sont peut-être pas au courant, la NCAA, qui est le National Collegiate Association, quelque chose, deux fois A, en gros, ils sont peut-être alcooliques. Puis... Ils ont fait cette année une espèce de... Vraiment une remanipulation des conférences, OK? Puis ils ont fait en sorte que à l'époque, tu avais beaucoup de conférences et la compétition était très diluée. Donc, ça faisait en sorte que... Un peu comme ici au Québec, on le voit, hein, couramment, on a toujours hâte entre le match entre les Carabins puis contre le Rouge et Or. On se rend compte que souvent, c'est comme les deux matchs les plus relevés de la Conférence Québec. Puis après ça, ben, on a hâte à la Dunsmore, puis on a hâte à la UTEC ou la Mitchell, qui est l'opposition la plus féroce. Puis après ça, la Coupe Vanier. T'sais. Donc, il y a comme 5-6 matchs où tous les fans peuvent dire « Ah, là, je pense que l'opposition est vraiment bonne ». En fait, dans la NCAA aux États-Unis, c'était la même chose. Hein. Dans ta propre conférence, tu n'avais pas toujours l'opposition. Et des équipes comme Alabama pouvaient avoir vraiment un gros match dans l'année avant de se rendre au championnat du SEC, qui était la conférence dans laquelle ils jouaient. Et là, donc tu perdais un peu des fans parce que, tu sais, regardez Alabama, ça crée une volée à, je sais pas moi, UL Monroe, de Louisiana Lafayette, Eastern Regional South Bender. Tu sais, t'avais des... Puis Alabama jouait contre des universités comme ça pour s'assurer d'une victoire, en fait, là.
56-0 à la mi-temps.
Genre, c'est pas le fun. C'est pas le fun à regarder pour personne. Mais la reconfiguration des conférences, écoute, je regardais en début de saison, il y a eu une augmentation de vente de billets avant même le début d'année de 50%.
OK, quand même. Là.
T'imagines? Puis on parle de... Je veux dire, c'est des stades remplis. Michigan, 100 000 personnes. Texas, 100 000 personnes. On parlait déjà de grandes foules qui se déplaçaient. Mais le 50% affecte comme des programmes comme Colorado, comme Arizona, comme et plein d'autres petits programmes qui ont rejoint des conférences et des conférences qui maintenant à toutes les semaines, donc tu joues les équipes à toutes les semaines, ton niveau de compétition est beaucoup plus relevé. Donc par exemple, cette fin de semaine, il y avait Michigan qui recevait USC dans leur conférence du Big Ten, qui est rendu vraiment une conférence presque de la NFL, parce qu'en réalité... Ça, tu sais, je veux dire, chaque conférence au départ était basée sur la géographie des équipes. Mais là, maintenant, le Big Ten a comme fait de la chenoute, la géographie. On veut juste faire une grosse conférence de foot. Donc, USC, qui est à Los Angeles, jouait Michigan, qui est à côté de Détroit, tu sais. Mm. Et ce qui est vraiment drôle de ça, d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, c'est que le football fait tellement d'argent, tellement d'argent au niveau universitaire, que quand une équipe, par exemple, comme USC, passe du Pac-12, qui était une organisation, qui était une conférence dans l'ouest des États-Unis, et passe au Big Ten, vous savez ce qui est drôle de tout ça? C'est que tous les sports de l'école doivent aller au Big Ten. Donc maintenant, quand tu fais de la gymnastique à USC, il faut que tu ailles faire des compétitions à genre Penn State puis à Michigan. Puis tu claques des longueurs d'avion. C'est pas juste croyable. Juste parce que le foot voulait aller jouer là-bas, pis t'es comme, calibre, le football. On aurait pas pu juste rester ici entre nous autres. Non, la NCAA, ça marche pas de même. J'ai une opinion d'ailleurs sur la NCAA. Je pense que ça sera pas trop long, d'après moi, que la NCAA saute aux États-Unis puis qu'on a une espèce de méga conférence privée.
Parce que tantôt, tu parlais justement de la grosseur des stades puis tout ça. Puis toi, tu l'as vécu, là, aller jouer devant comme des stades de 90 000 personnes et plus. Ouais. Je ne sais pas, t'as joué contre Texas, à un moment donné, il me semble que tu m'as déjà dit.
Ouais.
Ce feeling-là d'entrer dans un stade de 90 000 personnes, ça ressemble à quoi?
Indescriptible. C'est, c'est ridicule comment c'est indescriptible, en fait. Je me rappelle, il y avait 100 quelques mille personnes. C'était mon deuxième match, je pense, deuxième match que j'étais habillé. Il y a un match que j'ai raté puis j'étais blessé. Écoute, je me sentais comme la scène dans Maximus Decimus Aurelius là, dans Gladiator. Là, quand il arrive dans l'arène, puis il regarde en haut comme il voit même plus. Là, tu sais, là, c'est comme ça, pour vrai. L'avant-match, là, la veille du match où on va faire un peu la séance d'échauffement sur le terrain de Texas, j'étais comme. Le dernier match que j'avais joué, c'était à Contre-Vanier à Trois-Rivières.
OK.
J'étais là, tabarouette, qu'est-ce que je fais ici?
Ah, oh, c'est clair, là.
J'étais comme, wow. Puis bon, je me souviens, j'étais tellement énervé, là. Premier jeu du match que j'embarque, j'étais à gauche, donc c'était le bloqueur à droite et l'oreiller rapproché. Puis dans les feuilles, genre de personnel, là, tu regardais le gars, bloqueur à droite, 6-8, 320. Ailier rapproché, genre 6-6, 270. Et je suis là. Puis moi, j'étais peut-être genre 2,40, là, tu sais, 2,35. Là, j'étais là. Là, ils sortent leur personnel. Boum, les deux s'alignent direct devant moi. Je suis comme, « Et tabarouette. » Soit que l'ailier rapproché quitte, c'est une passe. Soit que, par exemple, les deux viennent sur moi ou il y en a un des deux qui va venir sur moi. comme de fait, les deux viennent me ramasser. J'étais là. Premier jeu, ouais, exact. Je me rappelle, je pogne le casque de un, je le sac à terre. L'autre, je le prends par le chandail. Les deux ont fini comme une grosse pile par terre. Deuxième jeu, j'ai été hors jeu.
Ouais.
J'ai été hors jeu. Puis je pense, mon troisième jeu, j'ai fait la mauvaise affaire. Mon coach, il m'a sorti. Puis il était bien cool. Il m'a dit, écoute, il dit, t'es comme au Vieux-Montréal. Là. Il m'a dit ça. Là. Il m'a dit, t'es comme au Vieux-Montréal. Là. Relax, t'es comme au Québec. Là. Mm-hmm. T'es là parce que tu mérites ta place d'être ici. Puis respire, là. Puis ça va bien aller. Puis je suis retourné après, puis c'était correct. Mais il fallait vraiment sortir les nerfs de ça.
Il fallait les sortir.
Justement, là. Dire, qu'est-ce que je fais ici? Là? Fait que petite séquence sur la NCAA et tout ça, mais les Alouettes gagnent en fin de semaine. D'ailleurs, les Alouettes ont gagné contre le Rouge et Noir. Grosse victoire des Alouettes ce samedi. D'ailleurs, trouvez ça bien drôle parce que dans le discours, allez voir le discours de Jason Moss après le match. Il y a juste Lual Ouguac qui vient d'arriver, tu sais, la nouvelle addition de l'équipe. Et là, il mange une pizza pendant que Jason Moss parle. J'étais là, hey gars, y a-tu faim, tu penses? Il est encore tout habillé, il se clenche une pizza. J'étais là, il est pas nourri, ce gars-là. Il faut l'aider, là. Clairement, je veux dire, je sais là, il vient d'arriver, il est là, il a la pizza dans la bouche, je sais pas, il parle, il est comme je dis, hey, tu parles d'une fringale. Tu parles d'une fringale. D'ailleurs aussi, je voulais te dire, avant d'aller en pause, tu sais, j'en ai parlé au dernier show ici le lundi, mais j'avais dit que j'allais peut-être me lancer dans les cartes de sport.
Ouais. Ah oh, ben oui, t'es Victor.
J'ai acheté Victor Wembanyama. Merci beaucoup. Bonsoir, première carte sportive achetée. Je me sens. Je sens que je fais partie de la gang. Ça m'a coûté cher, le petit Victor.
Ouais,
mais...
parce qu'ils t'ont tenté, hein. Tu l'as pas eu du premier coup.
Non, j'ai pas eu du premier coup. Là. Tabarouette sur eBay dans le dernier 10 secondes, là. Ça joue du coude.
Féroce.
Et tabarouette, c'est féroce. Je m'attendais pas à ça. J'étais comme. Il reste 6 secondes. Je place mon enchère. 5, 4, boum, 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 l'enchère, ça. J'étais là. Mais voyons donc. Je suis pas le seul à penser à ça. En tout cas.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon.
Ben écoute, parlons un peu des. On va ouvrir en parlant du travail des recrues carrières de la NFL. Un certain éveil. Ouais. Bo Nix a eu une grosse game contre les Buccaneers. Je les ai complètement anéantis. Puis c'est pas comme si Sean Payton, le coach en chef des Broncos, c'est pas comme s'il ménageait Bo Nix depuis le début de l'année. Tu sais, c'est 36 passes tentées, 40 passes tentées. Bref, il traite comme un professionnel. Et là, Bo Nix, qui n'avait pas une passe de toucher, ben, il a réussi à faire produire son attaque. 216 verges. En plus, il a couru très, très bien le ballon. Écoute, je l'ai pris dans mon fantasy avant le match.
Ben non.
Et là, je me disais, j'ai l'air d'un génie. Mais j'ai laissé tomber Caleb Williams.
Ah oui. Mais lui aussi a eu quelque chose d'intéressant dans son match. Là,
très intéressant.
300 verges, commencé à trouver Odunzi un peu plus. Son tight end Kmet aussi. Donc, quelque chose d'intéressant. Là.
Non, très intéressant du côté de Caleb Williams. En fait, il a eu une performance extraordinaire là, pour un carrière recrue. A eu une performance extraordinaire. Il a été précis. Il a pris des bonnes décisions. Il m'a beaucoup impressionné. Puis quand on a parlé de lui en mal dans les derniers matchs, mais pas nécessairement de lui en mal plus que d'autres choses, mais tu sais, des fois des mauvaises prises de décision de Caleb Williams. Puis là, 33-52, là, c'est un match de pro. Là.
Ouais.
Tu sais, 33-52, c'est un match de pro. 363 verges, 2 passes de toucher, 2 interceptions, tu me diras. Mais quand tu regardes le travail qui était autour de lui, des ballons qui ont été échappés, il a joué un excellent match et sans support, encore une fois, vraiment de ni sa ligne à l'attaque, ni son jeu au sol. Mm. C'est vraiment épouvantable depuis le début de l'année, comme il n'y a pas de support que tous les jeunes carrières aimeraient avoir dans le jeu au sol. Donc, écoute, c'est pas parfait, mais je suis quand même excité de la performance de Caleb et de Bo Nix de semaine.
Puis c'est ça qui est le fun, c'est que mettons dans le cas de Caleb Williams, bon ok, il a encore eu quelques erreurs, mais au-delà de ça, il y a enfin une progression claire.
Ouais.
Franche, on l'a vécu. Puis malgré le fait évidemment que c'était du football de rattrapage, donc bon, il y avait place à plus à pouvoir compléter de passe, mais malgré tout, il l'a fait.
Ouais.
Dans les autres semaines auparavant, il n'aurait pas été capable d'aller chercher ces complétions-là. La passe à Odunzi sur la ligne des côtés, c'est
magnifique.
Une passe magnifique back shoulder.
Ouais, ouais, exactement.
Donc ça commence, ça s'en vient, puis ça c'est possible pour les Bears parce qu'on s'en est dit la semaine dernière, si moindrement l'offensive est capable d'être moyenne avec la défensive qu'ils ont, ils ont l'opportunité de pouvoir causer des dommages à leur division.
Ouais, mais ils sont justement dans une division très forte qui justement les Vikings, peut-être on ne s'attendait pas à ça nécessairement. Donc, ça va être dur pour les Bears, mais reste que c'est une jeune équipe. Je suis pas sûr que Matt Eberflus, l'entraîneur en chef, qui est un entraîneur défensif, peut-être que l'année prochaine, il va avoir tellement de qualité de coach offensif disponible. Peut-être que les Bears vont juste vont aller chercher un gars. D'ailleurs, je te parlais de USC tantôt. Peut-être que Lincoln Riley, le coach en chef de USC, qui était à Oklahoma avant, que Caleb Williams a été à Oklahoma pour le voir. Après ça, Lincoln a accepté la job de USC. Caleb est allé à USC pour le suivre. Mmh. Je verrais peut-être une réunion se passer du côté de Lincoln Riley et Caleb Williams dans la NFL. Qui de mieux que d'un gars comme ça, comme pour dire, ben je le connais, je suis en terrain connu, peut-être que ça pourrait se passer de ce côté-là. Mais écoute ça, d'après PFF, okay, pour ceux qui ne connaissent pas PFF, c'est Pro Football Focus. C'est, en gros, c'est la première compagnie de statistiques avancées de NFL là, qui a été mis au monde. Et d'ailleurs, le propriétaire de Pro Football Focus, c'est Chris Collinsworth, s'il y en a qui ne savent pas, qui fait le Sunday Night, je pense, Chris. Collinsworth, qui est un ancien receveur de la NFL. Donc, d'après Pro Football Focus, dans le match de Caleb Williams, il y a eu seulement un lancé qui a été jugé qui était une passe qui était risquée, genre de devenir un revirement.
OK.
Donc, seulement une passe sur ses 52. Et c'était la deuxième interception qu'il y a eu sur Romo Dunze. Et quand tu regardes son taux de complétion, donc il était 33 en 52, je pense qu'on a dit, là, c'était ses statistiques, 33 en 52. Ouais. Quand on regarde les Pro Football Focus, quand on regarde les statistiques, si on recalibre, si tu veux, sur les 52 tentatives de passe, les jeux que les passes n'ont pas été échappées, ou par exemple que, bref, quand tu fais juste quand tu ajustes son taux de complétion par rapport à seulement son lancer et son difficulté de lancer, il aurait fini avec 71,7% de passes de complétées. Donc, 71% à 52 passes tentées, là, c'est du stock en tabarouette. La seule affaire, par exemple, qui fait aucun sens là-dedans, c'est que ça a fini 21-16.
Ouais.
Pas réussi à compléter dans les moments opportuns. Puis on va en parler tantôt. S'il y a une équipe qui a bien géré ces moments opportuns-là, c'est les Chiefs, encore une fois, de Kansas City.
Il m'écœure.
Ah ouais, moi aussi, il m'écœure. Parlons brièvement des Browns contre les Giants. Écoute, Daniel Jones joue un deuxième bon match de suite, pour vrai.
Il pourrait être 2-1. S'ils n'avaient pas saboté la semaine dernière, là, avec des mauvaises décisions.
Exact. Facilement 2-1.
Il pourrait être 2-1.
Facilement 2-1.
Ouais.
T'imagines si, après tout ça, là, genre les Giants gagnent l'Est de la Nationale, je vais littéralement me déféquer direct ici en studio.
OK, ben ça...
Non, je vais pas faire comme le gars de FSU, là, finalement. Je sais pas si t'avais entendu cette histoire-là, il y avait un gars... Non, mais je vais tomber en bas de ma chaise.
Ben ouais, à 100%.
Ah, ça serait fou raide. Que les Giants gagnent l'Est, là... Oh, tabarouette, ça serait... Après tout ce qu'on dit, là...
Ben...
Mais Malik pourrait être 2-1.
Malik Nabers est déjà pas loin d'être dans les 5 meilleurs receveurs de base de la Ligue depuis le début de l'année.
Il me fait très peur dans le parler dont je vous ai parlé, mais que j'ai plus le droit de vous parler.
J'ai plus le droit.
Mais en tout cas, j'ai un truc qui me fait peur. Malik Nabers me fait peur.
Ouais.
Si vous m'aimez, là, prenez pour Jaden Daniels. OK? On prend pour Jaden Daniels. D'ailleurs, j'ai pas le droit de vous parler de ça aujourd'hui. Revenez sur le podcast de jeudi, j'ai une idée de pari sportif qu'on doit faire.
Oui.
En parlant de ce pari sportif, je veux remercier ubet.ca qui est notre commanditaire officiel du podcast, non seulement celui en studio, mais celui... parfait. Et pas un feu quelque part. En studio et celui qu'on fait à la radio. Pour tous les... En gros, ubet.ca, ce qu'ils veulent faire pour vous autres, c'est que... Tu peux aller sur le site, puis il y a des questionnaires de sport. Basket, baseball, hockey. Tu t'en vas sur le ubet.ca. Tu réponds à 5 questions. Tu en obtiens 3 de bonnes. Puis Ubet te met dans un peu la cagnotte des gagnants, là, le cercle des gagnants. Puis dans cette cagnotte-là, dans ce trésor-là, il y a 100 000 $.
Oh, 100 000 beaux bidous!
100 000 beaux bidous! Donc, les prix quotidiens d'Ubet.ca sont à portée de votre main. Alors, qu'attendez-vous, comme ils disent?
Qu'attendez-vous?
Non, mais allez sur Ubet.ca, pour vrai, c'est cool. On remercie Ubet.ca, qui est une super belle compagnie de paris sportifs. Donc, on les remercie pour nous commanditer le podcast de football. On dirait ce qu'on voudra, là.
The One.
Le podcast, The One. comme Neo dans Matrix, The One.
The One.
Mais revenons à... Donc, merci pour, à Ubet et allez consulter le ubet.ca pour tous vos paris sportifs, la gang. Ça va être vraiment cool et c'est cool pour nous autres aussi parce qu'on aime la relation et on aimerait que ça se poursuive avec une belle compagnie comme ça. Donc, les Giants, Daniel Jones continue pour vrai. Deuxième bon match de suite. 24 en 34 pour 236 verges, deux passes de toucher, pas d'interception. Merci, bonsoir. Mm. Clean game. Clean game, comme on dit. Et les Browns, ben, en fait, Deshaun Watson a, quand tu regardes les statistiques des Browns, là, il y a une statistique qui existe dans les statistiques avancées qui s'appelle EPA. C'est Estimated Point Added, je pense, ou un truc comme ça. Expected Point Added. Ce que ça veut dire en français, c'est que en réalité, chacun de tes jeux, chacun des choses qui se passent dans un match a, d'après les statistiques avancées, une réalité espérée. Tu sais, par exemple, ben dans ce jeu-là, d'après la couverture, d'après ton personnel
t'aurais
que tu avais...
T'aurais pu réussir.
T'aurais pu réussir, voilà, à ce niveau-là. Quand tu regardes depuis... Écoute, c'est plate pour Deshaun. Là. Mais c'est pas si plate que ça, là, parce qu'il si fait plate. Pas pitié, là.
Ouais, vraiment.
Mais depuis 2000, là, chez les Browns, pas genre...
Pas dans la ligue, là.
Tu sais, les Browns. On s'entend, un cimetière de carrière depuis que je suis né, là. Les Browns, depuis 2000, semaine 1 à 3, c'est le pire départ cette année d'un carrière des Browns. Pas genre d'une division de... Non, non, des Browns! Ah ouais, non, exact. Ouais. Je vous nomme des noms, OK? Brian Hoyer, tu connais?
Ben ouais.
Ben ouais.
Oh oui.
Kelly Holcomb, Tim Couch, Derek Anderson,
Kelly Holcomb.
Josh McCown, Trent Dilfer, Colt McCoy, Jacoby Brissett, Baker Mayfield, Charlie Fry.
Oh.
Hey, y en a-tu des gars
là-dedans? Charlie Fry.
Hey, Charlie, fry me some chicken, boy. Non, mais
Charlie Fry.
Ouais. Donc, Deshaun est épouvantable, sérieusement. Épouvantable. J'ai aucune idée ce qu'ils vont faire avec lui, mais je sens qu'il essaye de trouver une façon de le sacrer de bord.
Ah oui, c'est une question de temps, il faut.
Exact. On a parlé de Bo Nix. Ben écoute, grosse victoire contre les Buccaneers, honnêtement. J'en ai parlé à Martin tantôt dans ma chronique de foot. Je sentais que les Broncos allaient gagner.
Mais Sean Payton avait l'air prêt pour les Bucs.
Sean Payton est bon.
Il a été longtemps dans cette division-là aussi.
T'as absolument raison. Très bon point. J'avais même pas pensé à ça.
Probablement, tu sais, je veux dire, il connaît aussi Todd Bowles. Fait que sûrement que dans son plan de match, il était prêt.
Ah, exact. Puis Bo Nix prend du galon. Puis ce n'est qu'une question de temps, je pense, parce que au podcast de jeudi dernier, on a parlé beaucoup de la couverture 2, hein, que la NFL, en tout cas, Mel Kiper, si vous allez voir ça, on en a parlé au dernier podcast. Mel Kiper, qui est un analyste du repêchage de la NFL, a dit qu'il fallait bannir la couverture 2 parce qu'en gros, ça limitait les carrières à lancer le ballon n'importe où sur le terrain pour pas se faire intercepter. Merveilleux, Mel.
Du génie.
D'ailleurs, je vais donner des pistes de solutions, si vous allez voir ça. C'est un des clips qu'on a fait circuler, ça m'a bien fait rire. Mais Bo Nix, son plus grand talent, quand il était à Oregon l'année dernière, c'est toutes les passes courtes.
Ouais.
Extrêmement précis. Battu tous les records, d'ailleurs, de tout le nombre de passes complétées dans les zones courtes à Oregon l'année dernière. Donc, quand moi j'ai vu Sean Payton sauter sur ce gars-là, je me suis dit, ben, non seulement il est actuel, parce qu'il regarde comment ça fonctionne, puis oui, t'as besoin d'un gars, tu vas être plus stable avec un gars comme Bo Nix qu'avec Anthony Richardson, par exemple, avec les Colts.
Ouais.
Qui est une vraie bébite de football, mais si t'es pas capable de frapper les zones courtes, tu vas avoir de la misère à avoir une attaque qui peut sustenter une série offensive. Anthony Richardson, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Tu mets ton demi de sûreté à 20, moi, je la lance à 90.
Ouais. »
Fait que, ah ouais, cours, mon homme. Mais tu sais, lui, c'est comme l'antithèse de ça, mais je comprends. Et Sean Payton l'a fait avec Drew Brees.
Ouais.
Donc, il connaît très bien c'est quoi un carrière hyper précis, qui a pas le meilleur bras. Tu sais, il sait c'est quoi. Donc, moi, je pense que c'est une question de temps. Tu mets les Broncos 0-2 contre les Bucs qui sortaient d'une grosse victoire que je t'avais dit. Tu sais, que quand tu regardais les statistiques contre Lyon, contre les Lyons de Détroit, tu faisais. Je comprends pas comment les Lyons ont raté ce match-là.
C'est une anomalie un peu là, au niveau de l'exécution des Lyons rendus dans le red zone.
Ah, écoute, je pense qu'il y avait eu 47 jeux contre 83 jeux à l'attaque contre les Lyons. Puis les Lyons avaient juste marqué. Même pas marqué 20 points.
Non.
Donc. Donc, tout ça faisait en sorte que je regardais les Broncos, puis j'ai pas été surpris du tout de cette victoire-là. Dans un autre match de la fin de semaine, on va noter quand même la performance encore extraordinaire de Matt LaFleur et de son staff offensif et de un peu du coaching de cette équipe-là en ce moment.
Là, Malik Willis qui a l'air de comme un mix de Lamar puis de Josh Allen par moment. Puis là, t'es comme, voyons donc, je vais pas s'agir. Mais il y a comme même pas 2-3 semaines, Malik Willis était même pas une option. Puis là, soudainement, ils arrivent, domination totale, 76 verges par la course, un touché par la course, un touché par la passe. C'est comme, la fleur s'en vient pour, tu me le disais tantôt à Rome, pour peut-être le titre d'entraîneur-chef de l'année.
Oui, ce qui ça aussi mettrait un espèce de coup final dans mon truc dont je vais vous parler jeudi, qui pourrait me... En tout cas, bon, un pari que j'ai fait, donc je vais pas le parler. Mais voilà, et Will Levis, ben encore une fois, commet des revirements. Écoute, lui va nous marquer, hein, sérieusement. Là.
Big Will.
Il va nous marquer.
Tu sais, c'est sûr. Il nous a tellement impressionné dans l'off-season.
Ouais, dans la saison morte. Une saison morte extraordinaire, mais... commet juste beaucoup trop de revirements. C'est 3 revirements du côté des Titans contre les Packers qui jouent du bon football en attente de Jordan Love. Puis écoute, je serais même pas surpris qu'il joue même pas Jordan Love la semaine prochaine. T'sais, ils viennent vraiment de voler 2 matchs.
Ça presse pas.
Exact, ça presse pas. Puis je pense qu'il joue les Bears en ce moment. Il joue les Bears la semaine prochaine. Puis t'es-tu capable de battre les Bears avec Malik Willis? Je pense que oui.
Bon, fort probablement.
Tu viens de sacrer une volée aux Titans 30-14. T'es capable de battre les Bears quand même, qui est une jeune équipe. Je pense que tu serais capable de le faire.
J'ai hâte de les voir contre les Vikings. D'ailleurs, les Vikings qui ont été drôlement impressionnants.
Drôlement impressionnants. Et les Eagles qui gagnent contre les Saints, on en parle au retour de la pause. Qu'est-ce que t'en penses? On a encore presque une demi-heure avec vous autres pour faire le retour des matchs. Évidemment, on veut parler des Eagles contre les Saints. Grosse victoire des Vikings. Je veux absolument vous parler des Chiefs. Et ça, on va garder ça pour la fin parce que...
Plus capable.
Incroyable. Incroyable.
On parlait tantôt, là. Au deuxième quart, tu savais qu'elle allait gagner.
Hey, je vais vous raconter exactement ma soirée d'hier, vous allez tout comprendre.
Je comprends pas ce que tu veux.
Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.
Hey, on salue Phil, sa messagerie sur YouTube qui nous partage son désarroi face à cette autre performance des Dolphins en fin de semaine.
Il a bien raison.
Qui ont tellement bien performé sur la route. Puis en tout cas, il nous demandait de pas en parler, mais ça va nous faire plaisir de le faire dans ce cas-là.
Oui, absolument, absolument.
Une belle défaite, là, un gros total de 3 points. Scarlett Thompson qui s'est fait ramasser toute la game.
Ah, incroyable.
C'était presque beau à voir, mais dans le cas, si c'était un fan des Dolphins, ça l'était peut-être un peu moins.
Écoute, c'est la pire offensive de la Ligue en ce moment, de la NFL, les Dolphins. C'est vraiment comme dès que Tua est tombé.
Mais comme à quel point.
Tout est tombé.
À quel point McDaniels n'est pas capable d'ajuster son offense. Comme on l'a souvent vanté comme étant un gourou de l'offensive depuis son arrivée. Puis là, tu perds Tua. Puis on n'est pas capable de générer quoi que ce soit sur 3e essai.
Ouais.
Plus capable de trouver Tyreek Hill. Est-ce que les équipes ont appris à s'ajuster à son schéma offensif? Puis maintenant, tu sais, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, je te dirais que mon intuition naturelle, là, quand je regarde un peu l'état de la ligue, c'est Mike McDaniel, c'est l'offensive de Shanahan, right? C'est l'offensive de Kyle Shanahan aux 49ers.
Ouais.
Il y a comme un prototype carrière pour ces offensives-là. Il y a comme... Clairement, le Carl nous l'a montré dans les dernières années, là, même quand Jimmy Garoppolo était là. La différence quand Jimmy G était là et n'était pas là, c'était deux mondes complètement différents. Là, genre, je pense que Jimmy était comme 36, puis c'était 6-30 quand il n'était pas là. Tu sais, complètement l'inverse. Puis je regarde du côté des Dolphins, il y avait eu quand même un bon match contre les Bills en série éliminatoire il y a quelques années quand Tua était blessé. Il avait failli gagner le match en série contre les Bills. Scarlett Thompson, mais là, les équipes l'ont déjà vu, ils connaissent, puis j'ai l'impression que, tu regardes les 49ers aussi, tu sais, Brock Purdy, est-ce que Brock Purdy est un des meilleurs carrières de la NFL? Physiquement, je sais pas, mais sur le terrain avec l'offensive de Carl, il est extraordinaire. Ouais. Est-ce que Jimmy G était un des meilleurs carrières de la NFL? Je sais pas, mais quand il était sur le terrain avec Carl, il perdait pas, puis il était extraordinaire. Mm. J'ai l'impression que ces gars-là ont besoin, et d'ailleurs, une des forces de Tua et de Brock Purdy, et de Jimmy G, c'est de se débarrasser du ballon rapidement, d'être précis dans les zones courtes, et pas toutes les carrières sont capables de faire ça. Donc, je me demande si c'est pas une question aussi de schéma aussi, tout ça, qui fait en sorte que des corps, t'as besoin d'un corps précis pour exécuter ce que t'as envie de faire de façon précise. Je regardais aussi sur la messagerie texte, on vous remercie de nous écrire sur la messagerie texte. On est dans les studios de BPM Sport, donc en direct à la radio, on peut voir ça. On a Marc qui nous écrit dans le péteux, le CH ce soir, go Bills. Ok.
Ça a le don de.
Merci Marc.
Merci Marc.
Merci Marc d'être là.
Ouais.
Et Et voilà. Donc,
c'est dit.
C'est dit, c'est dit. Il y en a d'autres. Hein. On vous invite à nous écrire. J'ai reçu beaucoup de messages cette semaine sur mon Instagram pour le podcast de jeudi. Donc, les gens nous ont écrit des questions. Donc, jeudi, on va avoir un moment où on va répondre aux questions sur le podcast de football. C'était cool. La première semaine, j'ai eu comme des « Hey, j'aimerais ça te poser des questions. » Et là, la semaine passée, j'ai eu comme plusieurs questions. Donc, il y en avait des bonnes. Puis, je pense qu'on va prendre le temps de répondre à la plupart des questions.
Mais oui.
Et ça va être bien cool. Donc, on voulait parler au retour de la pause. On voulait vous parler des Saints. Les Saints qui se font jouer un tour contre les Eagles, honnêtement, ou les Eagles qui avaient été épouvantables depuis le début de l'année en défensive.
Puis là, soudainement, arrête l'offensive qui avait fait le plus de points de la Ligue.
Exactement. Et là, t'avais l'air d'une équipe des Eagles qui savait jouer au football, en tout cas en défensive. Donc, j'ai été bien surpris, en tout cas, de ce match-là. Quand tu regardes, pendant trois quarts, c'était 3-0 pour les Saints. Mmh. Puis, c'est quelques jeux qui ont fait la différence, finalement. J'ai l'impression que ce match-là ne sera pas significatif pour la saison, ni l'un ni de l'autre équipe.
Ben, tu sais, visiblement, ils se sont dit, ben, je parle des Eagles, là, on arrête Kamara, puis on force Derek Carr à lancer.
Ouais.
Puis ils ont réussi, parce qu'au final, je pense que Kamara a à peine eu 3 verges par course, ouais, en average, peut-être un peu plus. Puis selon moi, c'est vraiment la stratégie que les équipes vont vouloir maximiser. Mais moi, j'étais surpris qu'il y ait un changement autant drastique quant à la production offensive des Saints,
ouais,
d'une semaine à l'autre, alors que c'était une attaque qui était sur un rouleau compresseur. Puis justement, on s'en parlait un peu en rentre tantôt. Là, je me demandais, tu sais, quel ajustement est-ce que les Eagles ont fait pour être capables de contrer justement une attaque qui était variée, qui était qu'on vantait déjà à travers la ligue. Qu'est-ce que tu as perçu peut-être un peu là-dedans?
Ben, pis... Vic Fangio, le coordinateur en défensive des Eagles, c'est un gars très expérimenté. Donc, il y en a déjà vu aussi des attaques comme ça dans les dernières années qui font ce genre d'affaires-là. Et il est très, très bon contre le schéma offensif de Kyle Shanahan. Donc, ça l'aide, je pense, Vic Fangio. Pis c'est pour va chercher Vic Fangio un peu partout dans la ligue pour aider contre ce schéma-là. Mais aussi la ligne défensive des Eagles. Un gars comme Jalen Carter, qui a été repêché l'année dernière, a joué une sapristi de game de football.
A passé sa journée dans le backfield.
Toute sa journée a passé vraiment sa journée à déranger l'adversaire. Donc, les Eagles ont tous les outils. C'est ce que je dis depuis 2 ans. Ils ont tous les outils. C'est juste, est-ce qu'ils jouent ensemble et est-ce qu'ils sont capables de jouer au potentiel de leur talent, en tout cas de repêchage. Mais un gars comme Jalen Carter, qu'on disait de lui qui est peut-être le Aaron Donald, hier, il a joué un peu contre comme ce genre de gars-là, mais c'est pas constant. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir, parce que les Saints, une de leurs grandes forces, c'est la ligne à l'attaque. Donc, la ligne à l'attaque, c'est comme... Quand tu regardes dans le football, c'est assez constant, la ligne à l'attaque. Tu sais, quand tu as une bonne ligne à l'attaque, tu sais que tu peux te présenter à tous les matchs. Du côté des Eagles, je sais pas si j'ai la même chose. T'sais. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir. Les deux matchs de ces équipes-là vont être intéressants la semaine prochaine, ou voir si cette tendance-là va se maintenir, ou si ces deux équipes-là vont reprendre directement où ils les avaient laissés la semaine d'avant. Sean McVay fait un tour complètement à Kyle Shanahan. Là, les Rams battent les 49ers dans le dernier quart, en fait. Là.
Ben oui.
Dans le dernier quart, puis... Carl, on dira ce qu'on voudra, toujours bien entouré au niveau des coordinateurs, mais les 49ers, de ce que je me rappelle des 49ers de Carl, ont jamais eu des bonnes unités spéciales.
C'est vrai.
Jamais.
C'est vrai.
J'ai l'impression qu'ils s'en foutent des unités spéciales, Carl. Puis d'ailleurs, tu sais, quand tu regardais les Patriots, une des forces des Patriots, c'est les unités spéciales.
Pas toujours.
Bill Belichick parlait des unités spéciales, c'était comme son dada, il pouvait parler d'un long snapper pendant des heures. Là,
c'est vrai. C'est vrai, il y a des clips de lui, là. Ah, je parle de son look, oh yeah, he's just great.
This guy is so great, man. He laces are always up. It's so great. He's a great guy, great kid, works hard.
Il virait okay, Chris Collinsworth quand il parlait de son long snapper, ouais, c'est direct.
Collinsworth, Patrick Mahomes, Bill Belichick, son long snapper. C'est genre, c'est son héros, là, en fait, là, tu sais. C'est le gars qu'il pouvait être, je pense, un peu.
Oui, oui.
J'aurais pu être ça, moi. Puis il parlait de Tom Brady, il disait, this guy is shit. he's not that good.
Average,
mid. Average. Voilà. Côté, on va revenir sur le. Mais en tout cas, pour finir pour ce match-là, Rams 49ers, défaite vraiment en fin de match. C'est la première fois, je pense, depuis que Carl a son carrière partant qui perd un match en saison régulière par plus de 10 points au quatrième quart. Fait qu'ils se sont fait remonter contre une équipe. Écoute, les Rams avaient des joueurs à l'offensive, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Là,
non.
C'était un peu broche à foin, mais Carl qui a toujours le numéro de Sean McVay. Et puis je pense que c'est un gros avantage en plus pour les 49ers. Tu sais, t'as un match par année aux Rams, mais c'est tous des fans des 49ers.
C'était rouge partout dans les estrades.
Rouge partout. Fait que T'as pas de raison de perdre ce match-là nécessairement, surtout dans l'état des choses des Rams.
Ah, puis c'est en plein contrôle. Brock Purdy a bien joué, mais il y a eu des vieux échappés ouais. au quatrième quart. Le Ronnie Bell, qui a des mains là, misérables. Il a échappé trois ballons sur des troisièmes essais ouais. au quatrième quart dans des situations qui leur auraient permis justement de continuer à gruger du temps au cadran. Mais c'est ça qui arrive quand t'as autant de blessés aussi, là, tu sais, des deux
exact.
Côtés.
Juwan Jennings aussi, que Carl Shannon adore, une game phénoménale. Prenez pas ce gars-là dans le fantasy, là, je pense que vous allez perdre quelque chose. Je pense que ça va juste être un match. Écoute, les 49ers avaient 95,5% de chances de gagner au début du quatrième quart. Faut le faire quand
c'était
même.
C'était là le moment de mettre un petit 7$ là, sur,
j'ai sur pas, les Rams. Carl Shannon, il commence à être un peu reconnu comme un gars qui oui. il se plante en fin de match. Hein?
Mm-hmm. Mm.
Autant en série que là maintenant en saison. Brock Purdy a eu un match extraordinaire. Encore une fois, je pense qu'il y a eu 8 passes qui ont été incomplètes. Et là-dessus, il y a eu 6 échappées.
Ouais.
Donc, presque un match parfait du côté de Brock. Et malgré ça, les Rams, qui est tout à l'honneur de Sean McVay, honnêtement, qui lui aussi pourrait coacher vraiment une année extraordinaire comme Matt LaFleur est en train de faire, c'est dans les capacités de Sean McVay. Parlons brièvement des Panthers contre les Raiders. En gros, ils ont mis dehors Bryce Young pour mettre Andy Dalton. Juste pour dire, moi je pense que Canales voulait juste dire à Dave Tepper, le propriétaire, regarde comment ton QB est pourri, sérieusement.
Andy the Great.
Andy the Great.
Andy the Great.
Moi je pense que c'est juste Dave Canales qui voulait passer un message à son propriétaire en disant, ton choix au repêchage était épouvantable. Je vais te prouver qu'avec Andy Dalton, je suis capable de faire des miracles. 319 verges, 3 passes de toucher.
Ah non, puis c'était une clinique, là.
Ah, une clinique, là. Comme Andy était comme. Andy, t'es là, moi là, je suis le meilleur corps de la NFL.
Ah, oh, c'était des targets, là. Puis t'as parlé à ça, les Raiders qui étaient juste putrides. Putrides. En défensive, là, c'était atroce.
Atroce, puis à surveiller, hein, du côté des Raiders. Devante Adams, elle avait vraiment pas de l'air content.
Oh non. Mais ça veut dire.
Mike Williams aux Jets pourrait se blesser n'importe quand. Moi, je vois Garrett Wilson, Devante Adams aux Jets, là.
Oh, arrête. Hey, hey, toi, pis t'es jazz.
Moi de ça un peu. Jase-moi de ça un peu. Aussi, je veux parler de. Ben, OK, Chargers, Steelers, je suis resté sur ma faim un peu. Parce que les Chargers ont tellement perdu de joueurs. Joe Alt, leur bloqueur à droite, recrue, est tombé au combat. Rashawn Slater aussi, bloqueur à gauche. Joey Bosa. Bref.
Un classique Chargers.
Ils ont perdu comme tellement de bons joueurs pendant le match. Je pense qu'à un moment donné, ils avaient moins 5 verges en deuxième demi, puis les Steelers en avaient 200.
Puis Herbert aussi, qui s'est blessé.
Herbert s'est blessé, t'as raison, absolument, qui a réaggravé sa blessure. Justin Fields est 7-2 à ses 9 derniers matchs. Faut y donner quand même.
The Field of Dreams.
Faut y donner. La défensive des Steelers continue d'être bonne. Je pense qu'elle est un peu surévaluée là, d'une certaine façon.
Ouais.
Ils n'ont pas joué contre des grandes équipes depuis le début de l'année.
Non, exact.
Voyons voir si ça va se poursuivre. Mais s'il y a une équipe, en tout cas, que je pense qui en ce moment est surévaluée, c'est bien celle des Steelers. Là, je
puis
sais pas pourquoi.
Ils n'ont pas une fin de calendrier facile. Ils affrontent, si je ne me trompe pas, ils affrontent deux fois les Ravens, deux fois les Bengals. Là-dedans, ils ont les Eagles aussi. Comme ils ont une fin de calendrier très difficile. Les Cowboys,
oui, la pire de
les
la NFL.
Jets, c'est comme...
Ah oui,
ils
n'avaient
pas le choix d'emmagasiner des victoires tout de suite. Là.
T'as bien raison là-dessus. Le 17 novembre, ils affrontent les Ravens. La semaine d'après, c'est aux Browns. Ensuite, aux Bengals. Ensuite, les Browns viennent chez eux. Ils s'en vont à Philadelphie, à Baltimore. Ils reçoivent les Chiefs. Puis ils finissent ça contre les Bengals. Quand même, oui, non, mais oh, il va falloir qu'ils attachent leur casque bien serré. J'entendais Tony Romo qui disait J.J. Watt et T.J. Watt et le Lawrence Taylor des temps modernes. Genre.
Ah, Tony.
Je sais pas. T.J. est quand même particulier. Il joue d'un côté du ballon.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, il joue toujours du côté gauche contre le moins bon bloqueur. Il joue toujours de ce côté-là. Mm-hmm. Je ne comparerais pas à Lawrence Taylor encore. Lawrence Taylor, c'est vraiment
ça,
une bébite extraordinaire. Il est très, très bon, DJ. Mais il est très unidimensionnel, tu sais. Mm. Il peut pas vraiment aller en couverture. Il joue toujours du même côté du ballon, tu sais, c'est comme... Mais il joue très, très bien.
Puis les analystes aiment beaucoup comparer le meilleur,
oui, t'as raison.
Meilleur joueur de ligne défensive à Taylor. C'est comme il y a une rotation qui se fait à chaque 2-3 ans.
T'as raison.
Puis il y a une comparaison qui se fait, là.
T'as raison. Donc, on a brièvement parlé aussi des Dolphins contre les Seahawks. Bref, les Seahawks, en ce moment, la job que Mike McDonald, le coach en chef, est en train de faire, l'ancien coordinateur défensif des Ravens, les Seahawks jouent du gros football défensif. Ce qui nous rappelle un peu l'époque de Pete Carroll,
ouais.
Mais sous un autre leadership. Geno Smith joue du football précis. Les Seahawks, peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, ou en tout cas quelque chose, mais quand tu regardes le nombre de pressions qu'ils mettent sur le corps arrière, cette défensive-là, je pense, peut surprendre. Et en ce moment, t'as, c'est qui nos trois équipes invaincues? T'as les Steelers, les Seahawks et les Chiefs.
Ah, les foutus Chiefs.
Les bon, OK, passons aux Chiefs tout de suite. Ben, les, attends, bref, les Lions battent les Cards aussi. Un peu déçu de la performance des Cards.
Kyler Murray m'a vraiment déçu hier.
Moi aussi, mais les Lions, c'était clair qu'ils allaient gagner ce match-là. Tu sais, dans le sens où ils l'ont échappé contre les Buccaneers. Ça reste une des meilleures équipes de la NFL. Ils ont couru dans le visage des Cards en disant « Ben, Kyler Murray, t'auras pas la balle. »
Non. Puis c'était impressionnant de voir comment c'est une équipe qui est rendue à maturité parce qu'ils peuvent gagner de façon différente.
Ah ouais, exact. Ils ont des joueurs partout, puis... Tu as bien raison de le mentionner. T'sais, le fait de pouvoir établir un jeu au sol comme ça fait en sorte que les Lions sont dangereux n'importe où, à la maison comme à l'extérieur. Mm-hmm. Fait que les Lions sont, encore une fois, je pense que c'est une excellente équipe de football et une de mes équipes favoris dans la nationale. On a le temps de parler brièvement.
Ravens Cowboys rapidement.
OK, parlons
aussi
de Ravens Cowboys rapidement. Ouais, tu as raison. Écoute, je m'attendais à une victoire des Ravens. Je pense que c'était le plus gros. Tu sais, comme au golf, là, le gimme, là. Moi, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que les Ravens allaient gagner.
Ouais, 100%.
0-2, Lamar était 20-1 en carrière contre des équipes de la Nationale. T'es sûr qu'ils allaient défoncer les Cowboys?
Ah, c'est ce qui se produisait, là, initialement.
C'est produit tout le match. C'est juste qu'ils sont à peine capables de finir des matchs. Là.
Ça n'a pas de bon sens.
Non, ça n'a aucun bon sens parce qu'en réalité, en plus, quand tu regardes, toute la semaine, j'ai dit « Ouais, mais c'est quoi l'identité des Ravens? » Tu lances, tu cours. Parce qu'on l'a découvert, c'est quoi l'identité, là? Parce qu'ils ont couru, quoi, 45 fois?
Ouais, on s'est écrit un moment donné, je pense que c'était rendu comme 20 courses contre 6 passes des Ravens, puis à ce moment-là, ils menaient comme déjà par 17 points. Puis, tu sais, ça a été vraiment ça tout le match, là.
Exact, ils ont couru 45 fois 15 passes.
Mm. C'est ça leur identité, c'est ça qu'il faut que fasse.
Et ils ont couru avec Derrick Henry, mais Derrick Henry avec Lamar en dessous du centre.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ils ont apporté des ajustements qu'ils n'avaient pas fait la première semaine contre les Chiefs, où on utilisait Derrick Henry à partir d'une position en shotgun, à 5 verges, carré, attrape la balle, la donne à Derrick. Mais la grosse force de Derrick Henry, c'était ce qu'il a fait au Titan du Tennessee toute sa carrière. Court un concept de zone au sol et laisse-le courir avec 5-6 verges d'élan.
Ouais.
Pas aucune verge d'élan en shotgun où la remise n'est pas faite. Et après ça, tu peux utiliser Lamar dans des feintes, mais reste que... Et Lamar est quand même toujours aussi dangereux quand il court avec le ballon.
Ben oui.
C'est juste combien de temps il est capable de faire ça. Lamar a couru 14 fois hier contre les Cowboys. Puis les Cowboys, ben, comme disait l'ancien coach des Cards, they are who we thought they were.
Ouais,
who we thought they were.
C'est classique, vont chercher des stats dans le garbage time. Aller chercher comme un ou deux touchés, tu y crois un peu, mais plus ou moins. Puis
19 points au quatrième quart.
Puis là, soudainement, tu pars sur ton week, puis tu y crois un peu peut-être aux Cowboys. Leurs partisans ont comme vu des petites étincelles, mais tout ça, c'est juste dans une cause perdante.
Non, les Cowboys ne sont pas les séries, c'est impossible. Impossible. je
prends de la chaise
encore une fois.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon.
De retour à la ligne démêlée, merci de nous écrire là, autant sur YouTube que sur la messagerie texte. On a Joe des Niners qui nous écrit « Salut Arnaud, on était à Cleveland hier et maudit que Watson est surévalué, pas capable de mener son attaque. » Rien de nouveau, rien de nouveau.
Vous êtes allé à Cleveland
quand
vous
même.
Hey, vous êtes courageux. Ouais.
On respecte ça.
Oh, salut Joe qui s'en va à Cleveland. C'est pas rien, ça.
Hey, Martin Landry qui nous écrit Steelers 3-0. Effectivement, les Steelers, les Seahawks, les Vikings et les Chiefs qui sont les seules équipes invaincues présentement dans la NFL. Puis, on s'en dit.
Il y en a juste une là-dedans, en fait, à laquelle on s'attendait.
Hey, les trois autres, là, absolument pas. Les trois autres, on les voyait même pas en série.
Non, c'est ça, exactement.
Comme aucune des trois.
Je me doutais que peut-être que les Vikings allaient être bons, mais tu sais... Peut-être 8-9, mettons, dans une grosse division, là, tu sais, quand même bien. Mais de commencer 3-0, n'importe quelle équipe commence 4-0, là, en fait, là, pour le restant de l'année, si tu joues 500, tu finis 10-6, tu fais les séries, c'est à peu près sûr.
Ben oui.
C'est à quel point le football reste que les matchs de saison régulière sont importants.
Ben,
autant au début qu'à la fin.
Ouais, on s'en dit souvent avec les Bengals, par exemple, même les Ravens.
Parce que c'est vraiment, tu réduis dramatiquement tes chances de faire les séries, là, tu sais, parce que la saison est tellement courte. Puis c'est pour ça que je pense que je serais pas surpris que les coachs remettent un peu de l'emphase dans la pré-saison.
Ouais.
Parce que là, tu te rends compte que le début de saison est bien payant. Et très payant quand tu joues une équipe qui sont pas rodées, que le corps est pas rodé. Que si toi, par exemple, t'es rodé, là, tu peux te sauver avec 2-3 victoires en début d'année qui vont faire toute la différence d'ici la fin de l'année.
100%. Puis, tu sais, on s'en parlait. Autant que, mettons, le jeu aérien et les attaques sont en train de revenir un peu à ce qui était fait dans le passé, ouais, au niveau du jeu au sol, ainsi de suite.
Ouais.
Peut-être que ça aussi, ça va se produire là, au niveau des matchs pré-saison, revenir un peu plus à pratiquer son offense, ouais, son exécution avant même le début de la saison.
Ah, moi, je serais d'avis de faire ça carrément. Écoute, on va parler du match. On va finir en parlant du match des Chiefs contre les Falcons. En bref, les Chiefs ont beaucoup, c'est vrai qu'ils ont des jeux qui paraissent très très mal, qui font paraître très très mal la ligue quand on a l'impression que tout le monde est contre eux, là, d'une certaine façon, où tout le monde est pour eux. Mais les équipes ont toujours des opportunités de les battre malgré ça.
Eh oui.
Tu peux pas t'arrêter à ça. Puis quand j'ai regardé ce match-là hier, je me suis dit, c'est ça que je te disais, puis tu m'as dit la même chose en fait. Dès genre la première série à l'attaque, les Falcons marquent.
Ouais.
Je te l'ai dit que j'ai fait. J'ai été directement en ligne parier sur les Chiefs. Je me suis dit, c'est sûr que les Chiefs gagnent.
C'est sûr qu'ils gagnent.
Tu sais, Kirk, il a gagné la semaine passée. Il est pas capable de gagner le soir. Déjà là, je me disais, deux en deux.
Ouais.
Contre Pat? Non. Ça reste Pat, là. Les Chiefs gagnent. Ils sont 9-0 à leurs 9 derniers matchs. Travis Kelce, il a eu combien de passes hier? Deux
attrapés pour 4 verges, je pense.
Ils ont même pas besoin de Travis Kelce pour battre les Falcons, qui honnêtement sont quand même bons.
Ouais, pourrait me surprendre.
Raheem Morris, le coach en chef des Falcons, sa grosse question quand il était avec la première chance qu'il a eu comme entraîneur-chef avec les Buccaneers, c'est sa façon de gérer son équipe puis sa façon de gérer ses matchs. Un peu, comment dire, immature.
Ouais.
Puis il y avait des articles ou en tout cas des trucs qui étaient à son sujet. Souvent, il était au bar avec les gars après les matchs puis il buvait avec les gars. Tu sais,
ah ouais.
Puis, ouais, puis le genre d'affaires que tu fais... En tout cas, démontre certains signes d'immaturité, tu sais. Puis hier, j'ai l'impression que c'est ressorti, ça, de chez Raheem Morris. T'sais, une fin de match juste mal gérée. Des choix de jeu, des mauvais choix de jeu.
Ouais. Troisième et un, courir avec Al Geyer à place de Brian Robinson, à place de Robinson.
Puis après ça, tu le fais avec Robinson, mais t'attaques la ligne de côté quand tout ce que tu veux, c'est avoir une verge, en réalité. C'est des mauvais choix de jeu, tu sais. Ouais. C'est des mauvais choix de jeu que... Bill Belichick était supposé avoir la job à Atlanta, mais c'est sa force, lui, dans les... Puis j'en parlais avec Martin tantôt dans sa chronique, mais on appelle ça en anglais du situational football. J'ai essayé de penser ici en c'est des matchs, c'est des situations particulières dans les matchs. Mm. C'est quoi les situations particulières dans les matchs? C'est les dernières 2 minutes de la demi. Au football canadien, c'est les derniers 3. Dernières 2 minutes de la fin de match. Comment tu gères ta dernière série? Comment tu gères ta première série? Comment tu gères tes unités spéciales quand, par exemple, tu fais un placement au 45 de l'autre côté? T'es-tu capable de la mettre en dedans du 10 où elle se retrouve tout le temps dans la zone puis tu viens de concéder 20 verges? Quand tu regardes vraiment les statistiques de chaque match, ben plus tu joues du beau football dans des situations particulières, plus tu vas gagner de matchs serrés contre des bonnes équipes. C'est pas exactement ce qu'on retrouve des Chiefs depuis 5 ans. 3-4 ans, en fait, au moins depuis les deux dernières saisons, où ils ont peut-être pas la meilleure équipe nécessairement sur papier, mais ils sont tellement bien coachés et tellement bien coachés dans des vraies situations de football qu'ils jouent du football intelligent dans des situations particulières où ils concrétisent leur série à l'attaque. Et Patrick Mahomes ne lance presque jamais de passe d'interception au quatrième quart.
Non.
Tu sais, c'est très, très rare. En fin de demi aussi, très, très rare. Il l'a fait hier, premier quart.
Ah, c'est ça.
Tu sais, très tôt dans le match.
Il sort de son quart.
Ça, il a envoyé ça à Justin Simmons, je pense qu'il est rendu à sa 6e interception contre lui en carrière. Le gars, il le connaît par cœur. Mais Pat va pas faire ça dans des matchs de série, il va pas faire ça dans des matchs, dans des moments importants. Puis Kirk et Raheem Morris, c'est pas leur ADN.
Non.
Alors, on peut regarder du côté des pénalités aussi, ça, mais ça arrive. À un moment donné, c'est plus de la chance quand ça arrive tout le temps, tu sais.
Ben, c'est ça. Puis à chaque fois que le match est serré, tu le sais que les Chiefs vont finir par l'emporter.
Exact. Même, c'est ça qu'on a dit, en fait. C'est
le même principe qu'il y a plusieurs années avec les Patriots. Tu le sentais, c'est comme cette espèce d'aura-là qu'ils ont, qu'ils sont en contrôle malgré le chaos un peu.
Malgré le chaos, malgré que l'équipe est bonne en face d'eux autres. Puis c'est ça, je disais, j'ai parié sur les Chiefs, je vais fermer la télé. Puis j'ai juste fait, on va le regarder demain. Et oui, c'est sûr, ils gagnent.
Ouais. Et comme de fait.
Et comme de fait. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été là pour
cette
édition.
Qui gagne ce soir, vite, vite? Qui gagne?
Bills. Bills, je pense qu'ils vont gagner.
Bills Bengals.
Ouais, non, j'ai pris les Commanders.
Ah
je vais
ouais?
dire Bills Commanders. Oh! Bills Commanders. Je suis mon instinct, tout le monde. Merci d'avoir été là sur la ligne des mêlées en 11 ondes de BPM Sport. Merci à Ubet.ca d'être notre commanditaire officiel. Et puis, on se revoit pour notre podcast de jeudi dans la ligne des mêlées. Manquez pas ça. Ciao, tout le monde.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
La ligne démêlée.
Voici la ligne démêlée avec Arnaud Gascon-Nadon.